Putain, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh, on n'a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là.
Les jours.
Oh, ce casque qui marche pas. Mais c'est pas vrai.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous, on y va. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, on prend les mêmes et on recommence. Bienvenue dans notre émission du jour, vivement fumoir qu'on tue les mouches. Alors je dois vous dire que je suis vraiment, vraiment soulagée, car je dois être porteuse du gène ABCC9, tout fraîchement découvert par nos amis scientifiques. Alors c'est pas le titre d'une de nos chroniques, hein, pourtant ça y ressemble, c'est tout simplement le gène du gros dormeur. Donc à tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi je refuse souvent des invitations en soirée sous prétexte que demain je travaille, eh bien sachez que je n'y peux rien, c'est génétique. Ouf. Au sommaire de cette émission, la chronique du jour au nom aussi énigmatique que le gène du gros dormeur 3A246, alias chronique de la maison de la mémoire, Florian Boulet continue à nous faire découvrir le passé de la Vilotte. Et cette fois-ci, place à la défense et au rempart de Saint-Afrique. Nous ferons un petit détour à l'office de tourisme, toujours de Saint-Af, à la rencontre des deux artistes qui exposent jusqu'au 23 décembre, un duo fascinant entre verre et estampes. Dans la chemise à rayures, vous pourrez en savoir un peu plus sur Enercop, un fournisseur d'énergie renouvelable. Et avant de retrouver avec un plaisir non dissimulé la plume d'Elsa Gourmand, une chanson dédiée à tous les brigands qui nous écoutent.
Je voudrais oublier le soir où la raison m'a quittée. D'amour et de cœur brisé. Et moi qui suis née ici, dans cette jungle qui confond d'une ritournelle le souci au chagrin d'une chanson. Je n'ai pas fait dans la dentelle et les deux ventres percés, celui de la demoiselle et de l'homme qui l'accompagnait. Car moi qui suis née là-bas, dans cette jungle qui murmure qu'il n'y a pas de combat, la vengeance est à coup sûr, qu'on me jeta dans une cage, que les barreaux furent pour moi le prolongement de ma rage, que l'on me vit sans émoi. Mais moi qui suis née un soir dans cette jungle mal famée, le couteau pour exutoire, la violence pour m'exprimer, j'ai beau le crier sincère que cette corde qui me pend au cou, c'est une fenêtre à ciel ouvert, un nouvel horizon pour tout. Tous ceux qui sont nés dedans, cette jungle qui fabrique de la graine de brigand aux matières illogiques. Après quelques jours chez le diable, si Saint-Pierre accepte le pardon pour mon geste irrémédiable, s'il m'accepte dans sa maison, je lui dirai que naître dans cette jungle aux mille vies mortes, présage pour ses enfants, aucune chance d'aucune sorte.
Graines de brigands, des ogres de Barbac qui se produiront donc en concert vendredi soir à l'amphithéâtre de Rodez. Et là, c'est le code Samoussa. C'est le moment d'appeler au 05 65 49 29 94 pour gagner quoi? Pour gagner une place au concert des ogres.
chou.
Falaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah!
Bonjour Elsa Gourmand.
Bonjour Audrey Barat.
Alors on commence avec notre désormais traditionnel survol des titres de la presse quotidienne.
Ouais, rapidement car on ne fait pas dans l'originalité. Le Monde, ceci dit, se démarque avec une sur la colère sourde des Français invisibles. Les politologues sont convaincus que la clé de l'élection est détenue par une population rurale et périurbaine exposée à la mondialisation et abandonnée par la démocratie. Le Figaro, lui, se délecte de la grande gabégie des comités d'entreprise à la RATP, la SNCF, EDF. Mais sinon, bah c'est la crise. Les menaces sur le triple A de la France occupent la une de Libé, de l'UMA, de France Soir, et Le Monde y consacre aussi un dossier spécial.
Et oui, on tremble, mais la crise, c'est quand même pas pour tout le monde.
Eh ben non, comme nous le rappelle Politis une fois de plus. Un rapport sur l'évasion fiscale des entreprises multinationales a été rendu public par une fédération de la Confédération syndicale internationale. Je sais pas trop ce que c'est que cette CSI. L'étude en question met en évidence un chiffre ahurissant. Elle estime que 60% du commerce mondial total est en fait acheminé vers des paradis fiscaux. La Confédération syndicale internationale a réagi avec les propos suivants. Les gouvernements trompent en réalité leurs propres citoyens en les privant de recettes fiscales provenant des entreprises qui pourraient être utilement utilisées à garantir des services publics de qualité.
Ah, si j'étais riche, yabadaï, oh, si j'étais dédié riche, daï, de moi.
La crise, encore elle.
Ouais, la crise encore à l'origine de la baisse des fonds publics destinés aux associations. Sale temps donc pour les assos, titre toujours Politis. Déjà dans les années 90, du fait de la décentralisation et de choix politiques spécifiques, l'État avait ralenti l'octroi de ses subsides. Donc, les collectivités avaient pris un peu le relais. Mais l'année 2010 a marqué un tournant. Les conseils généraux ont pratiqué des coupes claires dans les secteurs dits périphériques, culture, sport, jeunesse, surtout la culture. On se demande à quoi ça sert.
Inutile.
Et aussi dans l'action sociale.
Bien sûr.
Donc, autre effet de la diminution des fonds publics, la précarisation des emplois de ces secteurs et une augmentation aussi des prix pour l'usager qui devra payer plus cher sa place de théâtre. Enfin, quelle idée d'aller au théâtre, tu me diras. On se demande à quoi ça sert.
Perte de temps.
Ou la prise en charge des anciens dépendants. Je ne sais pas, on n'a qu'à s'en débarrasser. Bref, pour résumer, ce sont encore les pauvres qui trinquent.
Elsa, la crise ? Encore, toujours ?
Toujours. Au point que les raisons de se révolter ne manquent pas. Et les Anglais se sont enfin laissés aller à une petite crise de révolte sociale salutaire. C'est Marianne qui nous rappelle qu'il y a peu, 30 syndicats avaient appelé à la grève pour protester contre la réforme des retraites dans le service public. Un mouvement suivi par 2 millions de personnes, quand même. Alors ça n'était pas arrivé depuis 1979. Il faut dire, avec Thatcher, ils ont morflé les Anglais.
Elle dormait que 4 heures par nuit, il paraît.
Ouais.
Et Einstein, 11 heures.
Bon, ouais. Comme quoi, il vaut mieux dormir longtemps. On fait des choses mieux. Et dans certains secteurs, la décision de faire grève était historique. Ainsi, c'est la première grève pour le syndicat des directeurs d'école qui existe depuis 114 ans.
Waouh !
Il était temps.
Tous ensemble, qui pourrait être le slogan d'un nouveau collectif départemental aveyronnais qui va se constituer demain, une info du Midi Libre.
Ouais, le but de ce collectif est de réclamer un audit citoyen de la dette publique afin de savoir si elle a été contractée tout entière dans l'intérêt général ou bien si elle peut être considérée en partie comme illégitime. Ils ont de ces idées. Ce collectif regroupe des militants associatifs ou syndicaux. Alors, bah évidemment, y a des membres d'ATAC, de la Ligue des droits de l'homme, de syndicalistes, de Solidaires, de la CGT, de la FSU.
Des fouineurs.
Ils cherchent que les ennuis. Et pour porter ce débat sur la dette au cœur de la société, des réunions, des débats et autres projections de films seront organisées en Aveyron. Donc ils nous donnent rendez-vous demain au local de Solidaires à La Mouline, à Rodez, à partir de 20h. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres réunions dans le sud d'Aveyron, pour le coup. Voilà, pour changer de registre, car je sens que vous en avez marre, chères auditrices et auditeurs, de cette propension que j'ai à vous fourguer des nouvelles tristes à mourir. Je vous sens même légèrement exaspérée.
Tant que sip.
Ouais. Et donc, pour changer de registre, disais-je, je vais vous parler de politique. Et pour ce faire, je me suis procuré le magazine Cosette, plus féminine du cerveau que du capiton.
Alors, elle cause de quoi, Cosette ?
Cosette s'interroge. Qui veut le retour des femmes au foyer ? Bonne question, hein. C'est le premier volet de la série Cosette en campagne, rapport aux élections présidentielles, naturellement. Alors aujourd'hui, il y a 2,5 millions de femmes qui sont des femmes au foyer, soit par choix, mais de moins en moins, soit faute d'emploi ou faute d'une solution pour faire garder les gamins. Et ce chiffre pourrait augmenter. Donc que proposent les candidats à la présidentielle ? Alors à gauche, on a tendance à encourager les femmes à travailler. Plusieurs leviers sont proposés. Consolider les lois existantes en matière d'égalité salariale, lutter contre la précarité et instaurer un véritable service public de la petite enfance et réformer le congé parental. À droite, on aide les mères à jongler. Ils sont sympas, eux. L'UMP n'envisage pas de revenir sur la fin de l'école maternelle pour les enfants de moins de 3 ans. Le temps partiel, les inégalités salariales ne les ont pas inspirés plus que ça. Hein. Ils n'en parlent pas. La solution pour eux, c'est le télétravail. C'est merveilleux, ça. Ainsi, la femme pourra être au four et au moulin, faire la popote pour son mari et bosser pour son patron.
Avec ses petites pantoufles.
Voilà. Concernant le congé parental, il serait à la carte et on pourra piocher dedans durant toute la scolarité de l'enfant. Et l'UMP veut aussi créer un compte épargne temps familial dans lequel la mère pourra stocker ses RTT et les utiliser selon les aléas de la vie familiale. Alors, faut préciser, c'est pas pour partir en vacances avec les copines. Non, entendons-nous bien. Mais uniquement selon les aléas de la vie familiale, que les choses soient claires.
La gastro du dernier, voilà. La rougeole du grand, c'est...
Voilà. Mais on part pas en vacances avec les copines pendant ce RTT. Enfin, c'est
faut rester
idée.
À sa place quand même.
Voilà, exactement. Et le Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin, lui, voit les choses à peu près de la même façon, avec en plus un crédit de temps parental à raison de 100 heures par couple et par an. Bon. Et puis il y a Nicolas Dupont-Aignan, avec son parti Debout la République, qui souhaite de son côté salarier le parent à domicile, une idée défendue depuis des années par l'extrême droite.
Et justement, on en dit quoi au Front National là sur cette question ?
Eh bien, on fait pas dans la dentelle, comme d'habitude. On les fait rentrer à la maison, les bonnes femmes. Allez, hop ! On préfère favoriser la famille plutôt que l'émancipation des femmes. Avec un salaire maternel, l'équivalent du SMIC pour le premier enfant, renouvelable 3 ans pour le deuxième enfant et 10 ans pour le troisième.
Ouh, elles vont pas venir faire mettre, elles.
Non, moi c'est un peu tard.
Attends, mais c'est fabuleux.
Voilà, le salaire maternel peut-il vraiment profiter aux femmes ? Ça, c'est la question. Cosette a interrogé une économiste, Hélène Périvier, qui met en garde, en le mettant en place, vous figerez la division sexuée du travail et attirerez les femmes dans une situation digne du 19e siècle. C'est Cosette qui finit ainsi. N'est-il pas délicieux d'imaginer que vous aurez peut-être la vie de vos arrière-grand-mères ? Voilà. Alors, Cosette va continuer sur d'autres sujets tous les mois à s'interroger sur certaines questions par rapport à la présidentielle.
Puis un de ces quatre, on aura peut-être quelqu'un de Cosette au bout du fil.
J'espère. J'ai envoyé un petit mail là.
On croise les doigts.
Voilà, pour qui nous présente ce magazine qui est bien sympa, très très intéressant.
Bon, on termine quand même sur une note humoristique, s'il te plaît, Elsa.
Oui. Bah, toujours dans Cosette, il y a un dossier qui est consacré au baiser avec une citation de Mark Twain. Alors, Mark Twain, si je ne m'abuse, c'est l'auteur de... Aide-moi de...
Chloé, merde.
Bon, c'est un auteur très connu.
Oui,
ça se passe sur le Mississippi,
oui,
là.
Oui, hein, c'est ça.
Ouais,
on n'a pas Internet dans le studio.
Non.
Ça va pas du tout.
Ça va nous revenir tout à l'heure après l'émission. Donc, cette citation... Le premier baiser que l'on obtient d'une femme est comme le premier cornichon qu'on parvient à extraire du bocal. Le reste vient tout seul.
Merci Elsa Gourmand, rien que pour toi. Un morceau extrait du deuxième album de la semaine, A Space Without Corner de Super Bravo, qui nous invite justement à nous émanciper, à être libres. Today is the day I won't bother. Drifting away from my motherland. And how should I know but my father? Discovered your heartbeats were missing. You'd
today is the day I'll fly off all my trees and my tears and my rainy skies. But I need a hand to get over. So many hands are just passing by. If you discovered your heartbeats were missing, you'd be as afraid as I am.
Chemise à rayures.
Info, invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
Aujourd'hui dans la chemise à rayures d'Elsa Decourt, Stéphanie Lacomblée, responsable communication d'Enercop, une coopérative qui fournit de l'électricité 100% renouvelable. Attention, vos câbles électriques vont peut-être verdir.
Bonjour, je m'appelle Stéphanie Lacomblée, je suis responsable communication et commerciale d'Enercop, d'une structure qui fournit de l'électricité d'origine renouvelable à des particuliers et des professionnels partout en France.
Donc Enercop, ça a démarré quand ?
Enercop, ça a démarré en 2005. L'idée, elle a émergé en 2004. À l'époque, c'était l'ouverture du marché aux professionnels. Et donc, c'est à ce moment-là qu'un certain nombre d'acteurs du milieu de l'économie sociale et solidaire et des énergies renouvelables se sont réunis pour réfléchir ensemble à un acteur qui leur ressemble. Donc un acteur qui fournit de l'électricité à 100% renouvelable et un acteur qui a un fonctionnement éthique. Et donc ça a donné naissance à Enercop en 2005, une société coopérative d'intérêt collectif. Et on a commencé la commercialisation en 2006, d'abord aux professionnels, et puis 2007, ça a été l'ouverture aux particuliers. Et donc on a 5 ans d'activité aujourd'hui.
Donc ça a été créé par 22 acteurs, parmi eux quelques gros qu'on connaît déjà. Vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Oui, il y avait Greenpeace, les Amis de la Terre, Biocop, la Nef, Espul et Leclerc, qui sont des structures dédiées aux énergies renouvelables. On avait aussi des personnes physiques, comme Patrick Bem et Julien Noé, qui sont nos directeurs actuels. Voilà, un certain nombre de personnes qui avaient en commun une vision d'une autre énergie dans sa gestion et dans sa nature donc renouvelable.
Dans les gens qui produisent l'énergie renouvelable, que ce soit le biogaz, le solaire, etc., est-ce que c'est des particuliers ou des entreprises ?
C'est les deux. On a vraiment les deux dans notre mix énergétique. Alors c'est beaucoup des professionnels, on a quelques particuliers.
Où sont les producteurs ?
Alors ils sont un peu partout en France. On en a 56 aujourd'hui. C'est des producteurs d'énergie hydraulique, éolienne, photovoltaïque et biogaz. Ils sont vraiment répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et qui en fait sont reliés aux consommateurs via le réseau de transport et de distribution qui lui est resté un monopole public. Ça fonctionne de manière nationale.
Et aussi par région, non ? Vous fonctionnez beaucoup par région, non ?
Voilà, alors l'équilibre du réseau, la traçabilité, le fonctionnement consommateur-producteur fonctionne donc vraiment au niveau national. Ce qu'on est en train de créer, c'est des coopératives locales qui ont 3 missions. D'abord, de promouvoir l'investissement collectif dans les moyens de production. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'un consommateur, un citoyen, à un niveau régional, puisse cofinancer un moyen de production, renouvelable évidemment, qui soit proche de chez lui. L'autre mission, c'est de proposer des offres de maîtrise de la consommation d'énergie, en fait aider ces personnes à économiser l'énergie. Et enfin, c'est de commercialiser l'offre Enercop à un niveau local. Aujourd'hui, on a 3 coopératives locales qui sont nées. On en a une dans les Ardennes, une en Rhône-Alpes et une tout récemment cette année en Nord-Pas-de-Calais. D'autres projets sont en cours en Bretagne, en PACA et en Languedoc-Roussillon.
L'argent que vous gagnez, Enercop, il part où ensuite ?
Il y a une part qui permet de faire fonctionner la structure. Si vous voulez, dans votre facture Enercop, vous avez une part qui est énergie, hein, tout ce qui est rémunération des producteurs, une part transport, une part fonctionnement de la coopérative, une autre évidemment, tout ce qui est taxes et contributions collectivités locales. Après, cet argent-là, si on est bénéficiaire, les bénéfices sont statutairement réinvestis dans des moyens de production locaux et coopératives via, en fait, ces coopératives locales dont je vous ai parlé. En fait, le statut de coopérative d'intérêt collectif impose le réinvestissement dans l'objet de la structure, en fait. Donc, c'est une structure qui est à but non lucratif.
Vous êtes combien de salariés actuellement ?
On est 15. On est 15 en national et on est 22 avec les coopératives locales.
D'accord. Donc, comment ça se passe concrètement si moi, demain, je veux avoir l'énergie verte dans ma maison et plus passer par le nucléaire, donc passer par Enercop, comment je fais ?
Alors, il suffit, c'est très simple, de souscrire un bulletin de souscription papier. On vous demande un certain nombre d'informations administratives et quelques informations que vous trouverez sur votre facture EDF. Ou vous pouvez aussi tout simplement souscrire en ligne sur le site internet d'Enercop. Et la bascule se fait automatiquement. Il n'y a pas d'intervention sur votre compteur. Il n'y a aucune modification technique, physique, en fait, de vos installations. Donc, ça se fait vraiment en douceur. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui peut rassurer aussi les consommateurs, c'est que le changement est réversible. C'est-à-dire que vous pouvez choisir Enercop et puis changer d'avis pour X raisons au bout d'un mois même et revenir au tarif réglementé. Donc il n'y a pas d'angoisse à avoir de ce point de vue-là. Hein.
Est-ce que les tarifs sont les mêmes que EDF ou que le secteur nucléaire ?
Non, les prix à l'Enercop sont plus chers. Alors, tout dépend de votre profil de consommation. C'est environ 25% de plus chez Enercop, ce qui équivaut à environ 10 euros de plus par mois pour un ménage sans chauffage électrique. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait des devis hein, toute la journée en ligne ou par téléphone pour évaluer ensemble ce coût-là. En fait, ce prix, c'est le vrai prix d'énergie aujourd'hui. Hein. Les tarifs réglementés sont aujourd'hui très bas, parmi les plus bas d'Europe, et sont condamnés à disparaître et à entraîner du coup une augmentation généralisée du prix. L'idée d'Enercop, c'est vraiment de garder un prix stable sur la durée.
Est-ce que vous savez combien de personnes utilisent Enercop aujourd'hui en France ?
Oui, on vient de fêter notre 10 000e consommateur ce mois-ci. Parmi ces 10 000 consommateurs, 7 000 ont choisi d'être sociétaires de la coopérative. Sociétaire, ça veut dire prendre une part de capital ou plus et donc être vraiment actif dans la coopérative, voter lors des assemblées générales, élire un représentant au conseil d'administration. L'idée d'Enercop, c'est au-delà des énergies renouvelables, c'est vraiment d'aller vers ce qu'on appelle l'appropriation citoyenne du secteur, faire en sorte que le citoyen s'accapare cette question et puisse décider en fait de l'avenir énergétique du pays ou de sa région. C'est aussi pour ça qu'on essaime le modèle à un niveau régional. Pour nous, vraiment, l'avenir énergétique, il se décide au local.
Et vous pensez donc que Enercop ou que les énergies renouvelables pourraient remplacer un jour le nucléaire entièrement ?
Oui, enfin nous on pense que selon des scénarios tels que mégawatts, hein, aujourd'hui il y a des scénarios qui passent par des énergies 100% renouvelables et qui sont tout à fait crédibles. À nous de mettre tout en place pour que ça devienne possible et notamment mettre en place des programmes de maîtrise de la consommation d'énergie. On n'arrivera pas à 100% d'énergie renouvelable si on ne fait pas un effort parallèle sur les économies d'énergie, ça c'est certain.
Stéphanie Lacomblée, responsable communication d'Enercop au micro d'Elsa de Cour. Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur le site www.enercop.fr. Dans l'une de ses chansons, Jacques Brel est allé chercher des remparts à Varsovie. Mais pas la peine de courir si loin, il aurait pu amener sa madame promener son derrière sur les remparts de Sainte-Afrique, c'est tout aussi classe. Vous comprendrez mieux en écoutant la chronique du jour, 3A246.
Chronique de la maison de la mémoire.
Alors aujourd'hui, on est allé chercher un des documents les plus anciens que l'on conserve, qui date du 8 juin 1655. Et qui porte comme titre « Subrogation faite par Monsieur de Vertamont, maître des requêtes, au consul et communauté de Sainte-Afrique, au don à lui fait par le roi des plaines et terres en détruisant les dites murailles et anciens fossés du dit Sainte-Afrique. » Donc tout ça pour parler en gros des remparts et fortifications de la ville. Parce qu'on ne le sait pas forcément, on ne le voit pas pratiquement plus, mais Sainte-Afrique a pendant très longtemps été une ville fortifiée. Donc, pour resituer un peu le contexte, au XIVe, XVe siècle, donc pendant la guerre de Cent Ans, pour lutter contre les Anglais, on a érigé des fortifications, ce qui en fait n'a pas empêché les Anglais de prendre possession de la Guyenne, mais ça ne durera pas très longtemps. Et puis des remparts qui après se sont révélés assez importants, puisqu'ils étaient utilisés par... les protestants qui avaient une place forte à Sainte-Afrique pendant les guerres de religion. Ça faisait de Sainte-Afrique une ville défendue, bien défendue, puisqu'il y a eu pas mal de troubles donc, au début du XVIIe siècle, à tel point qu'en 1628, les troupes royales ont fait le siège de la ville sous le commandement du prince de Condé, siège qui a échoué. Ils n'ont pas réussi à la prendre, et c'est ce que d'ailleurs rappelle une plaque qui est apposée sur le mur du Pont Vieux, qui dit que ce sont les femmes et les jeunes filles de la ville qui l'ont si bien défendue que le prince de Condé est reparti tel qu'il est venu, quoi, sans avoir pris la ville. Mais malgré tout, en 1632, Richelieu, pour éviter tout risque de désordre, il ordonne la destruction des fortifications des villes dites rebelles. Il faut entendre par là des places fortes protestantes, en gros. Et c'est là qu'arrive Monsieur de Vertamont. Donc, comme le dit le titre du document, il était maître des requêtes. En gros, le maître des requêtes, c'était celui qui recevait les plaintes et adressées au roi et qui lui en faisait rapport. Et puis après, petit à petit, c'est devenu l'intendant, en fait, des différentes régions. Et Monsieur de Vertamont était celui qui s'occupait de la Guyenne, qui était une grande, on va dire, circonscription administrative dans laquelle se trouvait le Rouergue, qui correspond à la Véronne d'aujourd'hui. Donc Monsieur de Vertamont se charge de détruire les fortifications de Sainte-Afrique, en même temps celles de Saint-Rome-de-Tarn et de Camarès. Et du coup, le roi de France, en gage de reconnaissance, lui donne purement et simplement les terres qui correspondaient aux fortifications et aux fossés. Il lui donne par différentes lettres patentes, auxquelles fait allusion d'ailleurs la subrogation de 1655. Et grâce à M. de Vertamont, on connaît les dimensions des remparts et des fossés parce qu'il les a fait mesurer un an après les avoir acquises, donc en 1635. Et du coup, en connaissant les dimensions des remparts et des fossés, on connaît les dimensions et les dimensions de la ville telle qu'elle était à peu près à cette époque-là, quoi. Alors, où étaient situés les remparts? La seule trace qu'on en retrouve, c'est un plan qui avait été calqué à la bibliothèque impériale et publié en 1883. Et on voit que l'emplacement, en fait, il est conservé par les boulevards Victor Hugo de la République et Charles de Gaulle d'aujourd'hui. À tel point que, en fait, si on pose le plan donc relevé sur une photo aérienne d'aujourd'hui, ça colle quasiment parfaitement. Ce qui reste aujourd'hui, deux tours. Donc celle à côté du Pont Vieux, dénommée Tour du Terran, et celle qui est sur la place de la Liberté, qu'on appelle la Tour del Bastier. Mais il reste aussi le quatrième fossé tel qu'il a toujours été, puisqu'en fait c'était la sorgue qui permettait de faire une enceinte. Et on conserve aussi l'emplacement de trois des portes d'entrée dans la ville. la porte Notre-Dame, qui était située à l'entrée de la rue de la République, la porte de la Made, qui elle était rue Gambetta, et la porte Saint-Antoine, qui était rue Louis-Blanc.
(3A-246) Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
Vous êtes bien dans la tour de Radio Saint-Afrique. Vous reprendrez bien un petit CD de la semaine, un Melingo, sauce au poivre vert, ça vous dit ?
De ser un bardo chamullador, letrao ni de apamento. Yo digo humildemente lo que siento, pa escribir mejor lo hago en un fardo. Yo no le canto al perfumado nardo, ni al coste el agua azul del firmamento. Yo busco en el suburbio sentimiento pa' cantarle una flor, le canto al cardo, porque embroco la emoción que emana del suburbio tristón de la bacana y del tango candombero y cadencioso. Surge a torrente mi mistonga musa, porque yo tengo el alma rantifusa bajo esta pinta de bacán lustroso. Ser un barco.
Office de tourisme de Saint-Afrique. L'expo du mois.
Martine Benabou et Sclérène Imbeau, vous êtes toutes les deux réunies pour une exposition à l'Office de tourisme de Saint-Afrique. C'est vraiment, une fois n'est pas coutume, une exposition à deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les œuvres de l'une et de l'autre côté les œuvres de l'autre. C'est toutes les deux, vous avez travaillé ensemble. Comment vous vous êtes rencontrées ?
On s'est rencontrées en 2005. À l'époque, nous avions avec deux copines un atelier de gravure à Castres et un lieu d'exposition. Et nous avons invité Sclérène pour une exposition collective, voilà, en décembre 2005. Et on a commencé à découvrir ses œuvres. Moi, son graphisme me rappelait un petit peu le mien, ça m'a intéressée. Et après Sclérène, ça a été un retour. Elle m'a invitée sur une de ses expos, Transparence. Et c'est là qu'on a eu l'idée de faire une œuvre en duo, il y a 2 ans. Voilà. Et puis voilà, chemin faisant, on a envie de poursuivre.
Si vous voulez bien, on va se déplacer devant les œuvres. On va peut-être aller vers ce paravent qui a tout perdu de sa fonction première, qui est caché la vue, puisqu'évidemment le vitrail est transparent. Qu'est-ce que vous en diriez à nos auditeurs qui n'ont pas l'image ?
Alors, pour donc ce paravent ou ce polyptyque, en fait, selon si l'on le voit en objet visuel ou artistique ou les deux, Donc c'est un travail où je me suis permis d'enfermer des morceaux d'estampe de Martine entre des plaques de verre et de les agencer avec ce qu'on appelle des grisailles et du fusing. Donc le fusing, c'est du verre fusionné au four à haute température dans lequel j'ai placé des feuilles d'aluminium qui ont cramé, qui font des effets moiré. Et l'avantage du vitrail, c'est qu'on peut aussi enfermer des matières sans cuisson. Donc ces estampes ont été juste emprisonnées. Mais j'ai eu donc ta bénédiction pour déchirer à certains endroits, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça s'est passé, certains morceaux de son travail qui m'ont inspiré pour poursuivre les traits et mélanger nos deux techniques.
En fait, elle avait quartier libre pour déchirer les morceaux qui l'intéressaient. Et on avait choisi quand même au départ ensemble la composition. Hein, voilà. Et voilà. Et donc, elle est partie de mon travail pour aller vers quelque chose. Et moi, je suis en train de faire le retour, on va dire. Mais ça, c'est pas présenté dans cette expo, ce sera en juin. Je pars d'un de ces vitraux et je crée des gravures qui peuvent s'intégrer dans une œuvre commune. Ah, voilà.
Ça fait quoi de voir son travail déchiré?
je trouve que de toute façon, pour avancer dans la vie, il faut savoir déconstruire pour construire. Donc, quelquefois, on n'ose pas le faire soi-même. Donc, quelque part, c'est très bien. C'est elle qui a fait le premier pas. Et du coup, moi, j'ai beaucoup déchiré par la suite. Pour mes livres d'artiste, par exemple, là, j'ai beaucoup déchiré. Et c'est l'impulsion qu'il me fallait pour démarrer autre chose.
Travailler plutôt seul habituellement?
Oui, en création, oui, habituellement. Et après, je fais de la restauration pour le patrimoine. Donc, c'est un autre, en tant qu'artisan. Et là, je travaille avec mon apprenti et d'autres corps de métier. Voilà. Mais en création, c'est personnel, d'habitude.
Et moi, je travaille dans mon atelier de manière vraiment quasi monacale. Je m'enferme là-dedans au point que j'occulte même toutes les vitres, alors que j'ai un paysage formidable devant moi. Mais j'ai besoin de ne pas être distraite du tout par quoi que ce soit, même par un très beau paysage. Je l'ai dans la tête, ça me suffit pour créer. Voilà. Donc c'est vraiment, je suis dans une bulle. Mon mari dit que je deviens autiste quand je suis dans mon atelier, tellement je suis concentrée. Souvent il rentre, je ne l'entends même pas, je ne le perçois même pas. Voilà. Et donc, c'est intéressant de sortir de l'atelier et d'aller à la rencontre de l'autre.
Pour travailler le vitrail, est-ce qu'il faut, je ne sais pas moi, des qualités particulières? J'ai l'impression quand même que c'est des structures massives, c'est de la soudure.
Oui, c'est un petit peu lourd. Après, c'est du tout petit outillage. Donc, ce sont des petits fers à souder, des couteaux, des coupe-verres. C'est, à part le four, qui me permet de peindre les grisailles et de fusionner. Le reste, c'est du petit outillage. C'est plus sur chantier, voilà, qu'il va y avoir des échafaudages et autres. Oui, mais pour de l'objet, oui, c'est physique. Mais après, pour de l'objet ou de la sculpture, voilà, en petit format, le poids est raisonnable.
Et comment vous êtes arrivée au vitrail?
Après le bac, j'ai fait un bac histoire de l'art, art plastique, et mes recherches sont dirigées progressivement vers les métiers d'art et la transparence. Et je suis un peu tombée dans la marmite du vitrail, et quand j'ai été apprentie, et au bout de 15 jours dans un atelier, je me suis dit que c'était bien le matériau qui me correspondait. Et c'est un matériau dont on n'a pas encore trouvé tous les usages, donc que ce soit le verre en lui-même ou le vitrail, on peut vraiment le décliner, et c'est passionnant pour moi. Voilà. La matière en elle-même m'intéresse. Voilà.
Et du coup, vous faites tout de A à Z. J'avoue que j'ai jamais vu un
maître verrier.
Un maître verrier travailler. Du coup, c'est vous qui créez la pâte à verre? Enfin, comment ça se passe?
Non, je travaille à partir de feuilles de verre soufflées à la bouche la plupart du temps, que je peux néanmoins repasser au four pour le thermoformer ou le bomber, c'est-à-dire prendre des empreintes, des textures. Voilà. Mais sinon, c'est un travail à partir de feuilles, de plaques.
On présente ces pièces pour la première fois ici, et c'est vrai qu'on espère avoir un retour des critiques, positives comme négatives. C'est ce qui nous permettra d'avancer pour préparer les autres expos. En fait, cette exposition, elle est importante pour ça, pour avoir un regard sur notre travail en duo, parce que, comme je pense que beaucoup d'artistes, on doute beaucoup. Voilà, ce qu'on a fait. Enfin, on est satisfaite par rapport aux objectifs qu'on s'était donnés, mais forcément, après, le regard de l'autre, l'œuvre, elle ne nous appartient plus. Là, maintenant, elle est sur le regard des autres.
Alors, c'est drôle parce que pour nous, spectateurs, c'est de la magie, c'est du rêve. Et puis, on voit que pour vous, c'est du travail, quoi, presque. C'est...
Alors, en gravure, c'est aussi de la magie. Hein, parce que si je fais de la gravure, c'est bien pour ça. C'est parce qu'il y a quand même une grosse part de magie. Quand on découvre l'impression sur le papier, on a une âme d'enfant presque, hein, devant quelque chose de... Même si on sait à l'avance, si on imagine bien le rendu, il y a toujours une part magique. Oui, voilà.
Vous travaillez comment justement? Sur quel support? Qu'est-ce que
Alors,
vous utilisez?
Je travaille plusieurs techniques de gravure, mais essentiellement de ce qu'on appelle la taille directe, c'est-à-dire la pointe sèche. Et surtout de l'eau forte, donc de la taille indirecte, c'est-à-dire des plaques qui sont gravées avec de l'acide. Voilà. Donc j'exécute mon graphisme sur la plaque et puis je plonge ça dans des bains d'acide, des bains successifs, qui donnent des profondeurs différentes, et c'est ce qui permet d'avoir toute une gamme de valeurs allant... Moi, je travaille beaucoup en noir, hein, donc qui va du blanc vers le noir. Voilà. Et donc, voilà, la densité du noir, elle dépend de la profondeur de la morsure. Et ça, on ne le découvre que quand on fait l'impression, si on a vraiment bien mordu la plaque.
Il y en a qui sont loupés ?
Ça arrive, oui, ça arrive. Mais une plaque loupée, moi personnellement, je ne la reprends jamais, je la transforme, je la redécoupe, ça devient autre chose, mais je ne la reprends pas, j'aime pas la reprise, j'aime bien que ça vienne d'un premier jet. Enfin, tout est relatif en gravure, un premier jet ça n'existe pas. Hein, c'est dans la spontanéité du départ. Donc je recommence à zéro. Ce travail-là, vous parliez de déchirure, mais c'est une étape de plus. Dans le sens où on a mis des matrices gravées dans notre travail, ça veut dire que je ne peux plus imprimer ces plaques. Et ça, c'est le renoncement.
Je ne sais pas si j'aurais été capable de faire la même chose avec le verre. Ouais, je veux dire, c'est figé dans le verre. Ça y est. Maintenant, c'est figé. Martine pourra plus s'en servir pour faire ses impressions. Donc là, vous êtes réunis à jamais.
Ouais, c'est ça qui est intéressant.
Jusqu'à ce que quelqu'un, peut-être, craque et achète la pièce, et voilà.
Et la fasse vivre tout autrement. Tout
Comment on crée en duo? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? On tâtonne toujours, on cherche. C'est à chaque rendez-vous un petit bout de chemin. À chaque fois, on avance doucement, parfois plus rapidement. L'une inspire l'autre, on se répond.
Oui. On a commencé par beaucoup discuter, pour poser clairement, à plat, comment on voyait les choses. Parce que forcément, après, c'est un compromis, c'est des choses qui... c'est un tâtonnement. On travaille de manière un peu... On a travaillé de manière assez empirique, hein, faut le dire, au départ. On a des idées nouvelles, on les couche toutes... Enfin, on les couche tout de suite sur le papier pour moi, sur le verre pour elle, souvent.
Pas mal de photos aussi, pas de choses expérimentales.
On bouge les choses sur les tables, comme vous avez pu le voir sur l'écran. Et ça donne... on prend des photos de toutes les idées, en fait. On les met en photo. Et pour pouvoir revenir dessus, parce qu'on oublie vite, en fait. Hein, parce que les choses avancent et puis on oublie vite.
Alors, on commence par quoi ? On commence par les gravures, on commence par le vitrail. Dans quel ordre vous procédez ?
Ça dépend des moments, ça dépend des pièces. Parfois, on se laisse aussi des libertés de proposition, que ce soit enfermé, pour ma part, donc des estampes de Martine entre deux plaques de verre. Et par moment, ça va être un petit morceau de plomb bombé, froissé, qui va inspirer Martine. Donc, on n'attaque pas toujours sur le même angle. Ça dépend des pièces, en fait.
La première chose qu'on a fait, quand même, c'est essayer de prendre conscience des contraintes de l'autre.
Du métier de chacune.
Ouais, du métier de chacune. Donc, moi, je me suis un petit peu essayée à la grisaille. J'en ai compris toutes les difficultés. Et elle, au départ, elle n'avait pas compris à quel point il fallait travailler en amont quand on est en gravure. Parce qu'il y a le temps de réalisation de la plaque, il y a le temps d'impression et il y a le temps de séchage. Et donc, il n'était pas question de réaliser des œuvres une semaine avant l'expo, ce n'était pas possible.
Voilà. Contrairement à moi, qui peut en une journée sortir quelque chose, enfin une journée ou deux jours, mais dans la précipitation, parfois, c'est aussi une de mes manières de travailler, dans le stress et l'urgence parfois, il faut dire ce qui est. Et c'est vrai que Martine a le même stress finalement, mais il faut prévoir 4 mois à l'avance minimum. Donc c'est un autre, pour ma part en tout cas, c'est tout à fait un autre regard pour le coup, une autre manière d'anticiper.
Vous mettez un peu en danger vous-même à travers ce duo. Ça vous pousse un petit peu vers d'autres horizons, vers...
Je dirais pas danger, au contraire. C'est plutôt un grand plaisir et des nouvelles routes pour ma part, que ce soit ton caractère, ton expérience et ton graphisme surtout aussi me tire vers d'autres chemins. Donc c'est pas une, pour moi c'est plutôt très positif, voilà.
Et pour moi c'est très moteur aussi parce que ça faisait un moment que je voulais aborder de nouveau le volume et donc c'est un tremplin formidable pour faire des choses en volume. Et donc on prépare une grande expo pour le mois de juin là, au château de la Case dans le Tarn. Et tout ce travail-là, on l'a pensé comme un petit prélude à des très grands formats par contre. Voilà.
Et Martine Benabou, Scléra Nimbo, je vous remercie. Et donc rendez-vous à l'Office de tourisme de Sainte-Afrique jusqu'au 23 décembre. Merci.
Merci à vous.
Office de tourisme de Sainte-Afrique. L'expo du mois.
Et on se quitte donc avec Scléra Nimbo et Martine Benabou, deux artistes qui exposent à l'Office de tourisme jusqu'au 23 décembre. Ne la loupez pas, c'est assez magique. Aujourd'hui, dans notre émission, vous avez pu écouter 3A246, la chronique de la Maison de la Mémoire. Aujourd'hui, grâce à Florian Boulet, nous sommes incollables sur les remparts de Sainte-Afrique. Dans la chemise à rayures, Enercop ou comment verdir sa consommation d'électricité domestique. Côté musique, les CD de la semaine, Super Bravo et son Motherland, Melingo et sa moussarea, et les ogres de Barbac et leurs graines de brigands. Merci à Chloé à la technique, à Elsa Gourmand, spécialiste S. Chou et Fadez, et Elsa Decour pour ses chemises à rayures qui commencent à faire une grosse pile sur nos étagères. On se retrouve vendredi à 10h10 ou à 17h10 en rediffusion. Demain, on laisse nos fauteuils, nos casques et nos micros au tonton et peut-être à une tata, qui sait, est-ce qu'elle va revenir. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Bye.